c'est un deux. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
15h sur France Culture, vous passez par Continent Musique, émission Un Rien Numérique aujourd'hui animée par cette question du casque au clavier. Comment évoluent nos pratiques de la musique, ne serait-ce que sur ces 15-16 dernières années? Allez, pour les musiciens d'abord, à nos côtés, Bachar Mar Khalife, auteur de Yabalade, paru chez Infine, qui associe machines et instruments acoustiques dans les albums comme sur scène pour chanter une utopia ou un pays perdu. Vous jouerez tout à l'heure en direct au piano, Bachar Mar Khalife. Avec nous, à vos côtés, c'est Romain Delahaye, alias Molécule, auteur du projet 60 degrés 43 Nord, projet inédit entre compositions produites en plein océan Atlantique Nord, accompagné sur scène de vidéos. C'est vraiment une expérience immersive totale. Et puis, côté pratique, avec quoi est-ce qu'on écoute et puis comment depuis le numérique, depuis que le numérique change nos vies? À la table, Marie Georgescu de Hillerin, ingénieur son, auteur pour le site Les Numériques, notamment pour la partie qui est consacrée aux tests comparatifs de casques audio. Et puis, on parlera des différents casques qu'il y a sur le marché. Vous avez apporté un modèle particulier assez rare dont vous nous parlerez. Vous êtes aussi enseignante et musicienne, vos élèves écoutent ce que vous faites? Mais ils sont grands, vos élèves.
Je pense que oui. Parfois, j'ai des retours, ouais. Mais j'essaye de séparer les deux.
Des retours d'écoute. Ouais. On ne pouvait pas parler de son nouveau et de casque sans évoquer Nouveau Son, la plateforme de diffusion de Radio France sur le web. Le format multicanal, le son 3D, le binaural, vous saurez tout. Avec Hervé Desjardins qui évoquera, j'imagine, les possibilités, des créations possibles qui nous attendent. Nous accompagne toute cette journée sur France Culture Xavier Delaporte, que certains resitueront Place de la Toile, le rédacteur en chef de Rue 89, auteur de ce jour d'un dictionnaire intime du numérique. Pour l'instant, Continent Musique, clic. Dans le studio, au lieu de vous écouter, Romain Delahaye, alias Molécule, c'est votre projet 60 degrés 43 Nord, des compositions produites en plein océan Atlantique Nord, il y a 2 ans, tout juste, hein, c'était en janvier 2014. Vous avez embarqué avec quelques centaines de matériel à bord d'un navire usine, la compagnie de pêche de Saint-Malo, 34 jours sans escale à bord, une musique faite uniquement à partir des sons que vous avez saisis sur le bateau, avec des conditions extrêmes, hein, de l'Atlantique Nord. Vous êtes allé au large de l'Irlande jusqu'aux îles Féroé en revenant par l'Écosse. C'est à peu près ça, je crois.
C'est à peu près ça.
Le voyage. Comment est-ce que les marins qui étaient avec vous ont compris ce que vous faisiez là?
Ah bah, au début, ils n'ont pas compris grand-chose. Ils étaient très curieux, amusés même, de se dire mais qu'est-ce qu'un musicien va venir faire de la musique dans un sorte de boucan infernal perpétuel. Ils m'avaient surnommé le trompettiste en arrivant d'ailleurs, quand ils ont appris qu'un musicien allait venir. Ils pensaient que j'allais leur jouer la sérénade pendant qu'ils remontaient le filet, par exemple. Et puis rapidement, ils ont compris la démarche et au fil des jours, des semaines, ils me donnaient même des conseils en disant tiens là avec cet angle face au vent il faut absolument que tu ailles dans le local sonar, il devrait y avoir des sons intéressants. Donc il y en a qui ont participé, il y en a qui ont compris, et puis il y en a qui la musique électronique, la musique c'était quelque chose qui leur est échappé, mais c'était il y a eu beaucoup d'échanges et c'était une aventure aussi humaine forte.
Est-ce qu'il y en a qui ont écouté le résultat final et notamment sur scène, puisque vous avez joué, on écoutera un extrait du concert que vous avez donné à Rennes il y a pas si longtemps, qui a dû parler à plein de gens qui ont un jour pris la mer. Il y en a qui vous ont donné leur retour d'écoute?
Alors oui, j'ai fait écouter à pratiquement tout l'équipage sur le retour, puisque le concept, c'était d'une part de composer avec des sons enregistrés sur le bateau, mais surtout d'arriver avec des pages blanches, d'embarquer sur ce bateau sans savoir vraiment ce que j'allais faire, et voir comment j'allais être inspiré dans ces conditions un peu dantesques, et ne rajouter aucune note une fois revenu à terre. Donc c'était vraiment le dogme que je m'étais imposé. Et sur le retour, pour vous donner une idée, 60°43 N, c'est la latitude la plus au nord à laquelle on est allé avec le bateau, et c'est le jour où on a eu ordre de faire route terre, de rentrer, d'arrêter de pêcher, et on met à peu près 4-5 jours pour rentrer jusqu'à Saint-Malo en bateau. Et à ce moment-là, j'ai aussi un peu arrêté mon processus créatif, bizarrement, et j'ai fait écouter à pas mal de gens, et ben, y avait de tout, des gens qui trouvaient ça vraiment super, d'autres qui reconnaissaient telle atmosphère, et voilà, des retours plutôt positifs, ouais.
Alors Xavier Delaporte trépigne déjà, il est piqué au vif, et vous voulez poser une question, je vous laisse intervenir.
Oui, je me demandais si vous pensez que vous auriez fait de la musique différente si vous aviez été sur une autre mer ou sur un autre océan, ou est-ce que c'est principalement le bruit du bateau qui crée ce que vous avez produit comme musique?
Alors je pense oui, je pense que le contexte, ça c'est pas nouveau, mais pour tous les musiciens, on entend depuis longtemps tel artiste qui allait s'enfermer dans un chalet au Canada pour créer, un autre en Corse. Je veux dire, le contexte a toujours été très influent pour les musiciens. Là moi je voulais rajouter la dimension aventure humaine, tout simplement parce que j'avais envie de vivre ces conditions de mer un peu extrêmes en tant qu'homme, et la musique me l'a permis. C'est évident que dans un autre contexte, je pense que j'aurais eu des sensations différentes. Et par exemple, là, j'ai eu beaucoup de doutes. J'avais pas prévu ça, mais je voulais aller vers la nature, vers l'horizon sans fin. Et je me suis retrouvé comme sur une usine flottante avec tous les bruits parasites et les problématiques que ça impose. Donc voilà, il y a quelque chose quand même d'assez industriel finalement dans cet album, alors que ça a été fait en pleine mer.
Oui. Musique industrielle en pleine mer.
Voilà, exactement.
Vous disiez, vous racontez, vous photographiez précisément tout dans le livre qui a paru depuis. Hein, vous racontez telle musique composée le 23e jour par vent sud-ouest. Il y avait 40 nœuds, des rafales à 60-70. Là, c'était sur le toit de la timonerie, sur la passerelle tribord. Tout ça est très précis. Quel était le matériel que vous avez embarqué avec vous? Est-ce que vous auriez pu faire un tel disque il y a même seulement 20 ans? Est-ce que le matériel à l'époque, les ordinateurs, étaient suffisamment puissants pour composer en direct et revenir sur le bateau avec un album terminé?
Alors, c'est une bonne question. Moi, j'utilise beaucoup de vieux instruments, donc j'aurais à peu près emmené les mêmes instruments. Des synthétiseurs, des boîtes à rythme, beaucoup de choses plutôt des années 70, 80, on va dire. Là où il y a eu un gros changement, c'est pour l'enregistrement, où maintenant mon ordinateur permet d'avoir un multipiste, une table de mixage infinie, alors que il y a 20 ans, il aurait fallu un magnétophone multipiste, ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais ça aurait été aussi intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler sur la notion de contrainte, et même d'erreur. C'est ce qui m'intéresse dans ces vieilles machines, c'est de pas tout maîtriser et de cultiver une part d'erreur qui est pour moi souvent assez créative pour me surprendre moi-même en tout cas.
Alors le projet avance, vous donnez maintenant des performances, notamment avec un vidéaste, Gauthier H. Je disais expérience immersive totale, puisqu'on peut vraiment être pris presque à 360 degrés. On écoute un extrait de ce que vous avez donné à entendre et à voir au Transmusical cette année. Morse. Un extrait du live donc, que vous avez donné Molécule il y a quelques temps au Transmusical et qui sera bientôt édité sous le label Because Music. Hervé Desjardins, vous connaissez ce projet de Molécule hein, puisque vous l'avez accueilli, enfin c'était pas vous, mais au sein de Nouveau Son, donc la plateforme de Radio France, vous l'avez accueilli au sein d'une série web. Quel intérêt sonore pour vous dans ce type de projet ?
C'est que c'est de voir ce qu'on peut faire de l'espace en musique. Quel est le sujet, enfin, qu'est-ce qu'apporte l'espace au sujet musique, en fait, dans l'écriture d'un compositeur ou d'un créateur, quelle que soit la forme. Et donc, ça, sont des sujets éminemment intéressants parce que là, on est en mer, on est dans un bateau, il y a plein de sons, il y a plein d'atmosphères et d'ambiances différentes. Et mélanger avec des sons concrets avec lesquels on joue, avec lesquels on va jouer sur les musicalités naturelles et qu'on va mélanger. Et que peut apporter la donnée spatiale à l'émotion et au fait de jouer avec cela. Donc ça, ce sont des sujets qu'on sélectionne bien volontiers et avec lesquels Nouveau Son aime donner un coup de pouce et même participer, parce que nous, ça nous apporte énormément justement sur le plan de l'écriture, de comment on peut aborder l'espace, et ça nous permet aussi d'améliorer l'outil, de comment transmettre cet espace.
On l'a vu, Molécule, la musique a beaucoup évolué entre le projet du disque et ce que vous donnez à entendre sur scène. Est-ce que ça tient aussi aux différents outils que vous utilisez, enfin les instruments, les outils que vous utilisez en live, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux avec lesquels vous enregistrez ?
Alors si, il y a une partie qui est la même. L'idée, c'est de recréer un peu le studio que j'avais en mer sur scène. Après, il y a savoir à qui on s'adresse. C'est vrai que sur le live, il y a un parti pris beaucoup plus techno, beaucoup plus dynamique. Parce que il y a un rapport au public, parce que je suis dans la scène techno et que bon voilà, il y a cette idée de cette volonté de vouloir les emmener aussi dans un rapport physique et de danse. C'est vrai que sur l'album, s'il y a beaucoup de plages d'ambiance qui vont chercher des émotions que j'ai pu rencontrer lors de ce voyage, on va chercher avec les, en fait, selon les contextes, des émotions différentes. C'est pareil sur le projet Nouveau Son, ce qu'on a fait, où on a cherché vraiment l'immersion à travers les sons, avec l'espace justement, qui est un outil pour nous compositeurs qui est assez jouissif. On aimerait avoir ça un peu tous les jours sous la main. Voilà, on s'adapte en fait en fonction des déclinaisons d'un projet. Là, c'est vraiment ça. Il y a un voyage et une musique créée, et puis après, c'est un projet un peu tentaculaire. Il y a beaucoup de choses différentes.
Alors, petit retour en arrière. Je voulais vous faire entendre la voix d'un compositeur précurseur dans l'utilisation des ordinateurs et qui a composé, par exemple, ce son qui descend infiniment.
L'ordinateur pourra, si on le programme convenablement, produire des sons qui imitent ces instruments, mais il pourra aussi produire d'autres sons, et c'est peut-être plus intéressant encore, la perspective de pouvoir produire d'autres sons que les sons des instruments réels. Naturellement, l'ordinateur lui-même, à proprement parler, ne fait pas de sons. Simplement, il contrôle des machines à faire des sons. Le procédé que j'ai utilisé a été mis au point à la Belle par Matthews, et il s'agit d'un procédé qui consiste à demander à l'ordinateur de contrôler directement le haut-parleur lui-même qui produit le son. C'est un haut-parleur qui produit le son. Un haut-parleur est excité par un courant électrique, et ce qu'on demande à l'ordinateur, c'est de calculer tous les détails de ce courant électrique pour produire un son déterminé. L'ordinateur a au départ certains ordres sur la manière de calculer ce courant. On peut lui demander de calculer une sinusoïde, par exemple, et on aura ce qu'on appelle un son pur. Mais généralement, on veut au contraire avoir des sons beaucoup plus complexes. Toutes les voix sont additionnées algébriquement à l'intérieur de la machine pour donner un résultat polyphonique qui est envoyé sur le haut-parleur. Et alors, on sait contrôler les paramètres physiques des sons qu'on veut produire avec l'ordinateur d'une manière très précise.
Mmh. Jean-Claude Risset, le 8 novembre 1971, c'était sur France Inter, vous imaginez, hein, cette musique diffusée sur France Inter. Jean-Claude Risset, le 8 novembre 1971, c'est un compositeur qui est né en 1938, très jeune agrégé de physique, à 23 ans. Il fait partie des pionniers de l'informatique musicale. Il a créé l'IRCAM en France, aux côtés de Pierre Boulez. Je crois même qu'il est médaille d'or du CNRS. Je voudrais revenir sur ce qu'il dit à l'instant. Plutôt que d'essayer d'imiter les instruments qui existent, lui s'intéresse aux sons que peuvent créer les machines. À quel moment, vous, Molécule, vous avez été confronté à des sons qui n'étaient pas attendus et où, en fait, que la machine suscite d'elle-même ?
Ben, je parlais des erreurs tout à l'heure. Il y a ça, et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a aucun intérêt de se rapprocher d'un instrument, puisqu'on n'arrivera jamais à avoir la même fluidité de jeu et d'improvisation qu'un véritable instrument. Je dirais, ce qui est intéressant, c'est dans les textures, dans les timbres, d'aller chercher des choses un peu nouvelles.
C'est intéressant parce que dans les années 80, c'est tout à fait le contraire qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'il y avait des claviers qui reproduisaient, qui essayaient de jouer des trompettes, pas toujours avec beaucoup de talent.
C'était le côté pratique, je pense. Mmh. Les années 80, c'était un peu... C'est un peu des feignants, je dirais, au sens où tout, hein, au niveau de la grande distribution, c'est arrivé dans ces années-là, le système des franchises. Je pense qu'il y a, c'est une période où tout le monde a voulu faire du profit, être pas dans du qualitatif, même si ça a eu beaucoup d'influence sur beaucoup de ces dernières années dans la musique notamment, mais historiquement, c'est quand même une période un peu, c'est un peu pour moi l'apogée du capitalisme, notamment dans les machines, avec l'arrivée du numérique, et il y a un côté un peu, pour moi, pas très qualitatif, contrairement aux décennies précédentes, et maintenant, on revient aussi un peu à ça, avec ce côté un peu cheap, je dirais, des instruments des années 80. Froid et cheap.
Voilà, mais ceux qui ont précisément un son qui ne ressemble pas du tout à un instrument. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment un son de machine, en fait.
Tout à fait.
C'est ceux-là qui sont privilégiés. Bachar Marc Khalife, vous qui avez été membre de l'ensemble intercontemporain, je ne sais pas si Jean-Claude Risset fait partie des compositeurs que vous avez aimé travailler ou écouter.
Je n'ai pas été membre, j'ai fait quelques projets avec l'intercontemporain.
Vous avez fait des apparitions à leur côté.
Voilà. Mais effectivement, oui, c'est un grand nom de la musique française aujourd'hui. Mais je voudrais revenir un peu sur ce qui
vient d'être dit, qui est proprement scandaleux.
Pas du tout, non. Je suis très, très heureux d'entendre parler Molécule. Déjà la métaphore du bateau, parce que le bateau, c'est une merveilleuse métaphore du studio. Comme il le disait, chaque musicien est influencé par l'environnement et la période aussi à laquelle il rentre en studio pour enregistrer. Et les vagues et le vent, et c'est un peu les instruments qu'on peut trouver dans un studio. Donc je me suis senti un petit peu... j'ai reconnu mon propre bateau à l'enregistrement de mon disque. Et en concernant les machines, je pense qu'il y a... À un moment donné, il va falloir aussi... diminuer les différences entre dire qu'une machine et un instrument. Le piano est aussi une machine. Les instruments sont au départ des machines qui, certes, fonctionnent différemment, mais ça reste des outils qu'on va utiliser pour exprimer quelque chose de musical à un moment donné.
Tout à fait d'accord. Oui.
Et puis une distinction, là bon, vous avez trouvé qu'on fait un pas de côté qui est un peu fort, mais quand on voit par exemple le jugement qui est porté sur la musique, c'est-à-dire que le débat sur la musique électronique qui ne serait pas de la musique aujourd'hui, il nous paraît très très lointain, mais bizarrement, il revient au travers des extrémistes, c'est-à-dire que l'État islamique utilise des musiques dans ses messages de promotion qui ne sont que des messages vocaux, hein, puisqu'il ne s'agit surtout pas d'utiliser d'instruments de musique, proscrit tout instrument de musique, sauf l'ordinateur. Pour eux, l'ordinateur, les effets, les machines ne sont pas considérés comme des instruments de musique. Ce qui appelle quand même à réflexion, non ? Il y a comme une forme de paradoxe.
Tout à fait.
Bah oui, c'est étonnant, mais d'autant plus que si on prend l'univers de la musique électroacoustique, mais je pense que dans la musique électronique en général, enfin, aujourd'hui, un compositeur en électroacoustique, pour lui, son instrument, c'est son ordinateur, c'est son PC, ses portables ou son, enfin voilà. Donc.
Et bien on reviendra tout à l'heure sur votre pratique, Bachar Mar Khalife. On passe à la partie nouveaux sons, un extrait de ce qu'on peut trouver sur la page de nouveaux sons. Un jeune groupe rennais qui a été capté donc au Transmusical de Rennes. Molécule, vous posez tout de suite des questions sur ce groupe et comment la captation a été faite et comment vous avez fait le mixage, puisque quand on clique, nos auditeurs se rendent sur la page de Nouveaux Sons, c'est la première chose sur laquelle on tombe, c'est ce qui est mis en avant en ce moment, c'est donc le live de Heure au Transmusical, qu'on peut écouter donc en 360 degrés quasiment.
Oui, là, c'est l'enregistrement est disponible. Enfin, on peut l'écouter soit en audio binaural, c'est-à-dire qu'avec un casque, on a une reproduction d'un 5 points virtualisé. Le 5 points, c'est ce home cinéma, vous savez, les 5 enceintes qu'on peut avoir dans son home cinéma, enfin, dans son salon, ou bien alors dans une salle de cinéma, qui est le format le plus courant.
Et si donc, on a une salle de cinéma à la maison, par exemple.
Voilà, on a 5.1, voilà. Mais c'est surtout que sur Nouveau Son, d'ailleurs, ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'écoute binaurale. Parce que là, on a un mode d'usage qui est de plus en plus courant pour l'écoute, notamment sur le web. Et là, c'est une captation donc du groupe Heur qui a été faite avec un mixage qui a été fait donc dans ce format, qui permet de l'apprécier dans ce format et donc d'avoir une impression d'immersion. En fait, c'est ça l'idée, quoi.
Hervé Desjardins, vous êtes ingénieur du son, compositeur autrefois dans une autre vie, vous me disiez, même ancien animateur radio. Mmh. Vous travaillez ici à Radio France au développement de nouveaux sons, plateforme de diffusion de Radio France sur le web. C'est pas en radio, mais c'est sur le web, sur le format multicanal. Par exemple, quand on va aller écouter ce qu'on entend là, Heure, on peut cliquer sur paramètres 3D binaural. Et puis là, il y a différents profils d'écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche à faire? Parce que ça change tout de la conception qu'on va avoir, enfin, plutôt du ressenti. Il faut absolument passer par ces petits tests d'écoute pour que l'expérience fonctionne.
Alors pour faire simple, je vais essayer de faire simple et très court. En fait, la reproduction, enfin l'écoute binaurale, c'est notre écoute au naturel. Donc le principe de la reproduction binaurale, c'est de reproduire ce que nous appelons les indices de localisation des sons dans l'espace, qu'utilise le cerveau pour repérer l'espace et se repérer dans l'espace quand il n'a pas la vue. Voilà ce qu'on utilise. Donc ces trois indices, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle la différence d'intensité entre les oreilles. Donc si un son est plus fort sur ma gauche, c'est qu'il vient de la gauche. Si ce son arrive un tout petit peu avant dans mon oreille gauche, c'est qu'il y a vraiment toutes les chances qu'il vienne à gauche. Et dans ce domaine-là, le cerveau est très précis parce que on est capable de discriminer des temps de l'ordre de à peu près 50 à 60 microsecondes en fonction de la tête de l'individu. Et ça correspond à une précision de 5 à 6 degrés sur le plan frontal. Donc ça donne la précision qu'a le cerveau pour localiser les sons dans l'espace. Et puis il y a un troisième indice, ce qu'on appelle l'indice spectral, c'est qu'en fait, tous les sons sont composés de différentes fréquences. Et en fonction de la position qu'ils ont par rapport à notre tête, ces fréquences vont être modifiées au moment où, juste avant de rentrer dans le conduit auditif. Je fais très simple. Et c'est surtout notre pavillon qui modifie énormément le spectre avant que l'onde rentre dans le conduit auditif. Donc si on reproduit ces trois indices à l'entrée de nos conduits auditifs avec un casque, eh bien, on fait croire au cerveau que le son a une place bien précise. Donc, nouveau son aujourd'hui, on a fait encore assez simple, mais on va faire beaucoup mieux dans les mois qui viennent. C'est qu'on virtualise un 5.1 et en fait, on reproduit virtuellement les 5 haut-parleurs que vous avez peut-être dans votre salon, qui en général posent problème parce que ça prend de la place, ça met des câbles et tout, et le casque est quand même beaucoup plus précis. Donc, voilà comment on fait. Donc, après, il suffit de faire un mixage spécifique où on mixe dans l'espace les sons, les place avec la console, des consoles spécifiques ou des outils de mixage spécifiques, et on les place dans l'espace et on reproduit ça et on le donne à écouter aux auditeurs. Ce qui donne une immersion et donc une perception un peu plus fidèle, proche de la réalité dans le cadre d'un enregistrement de live. Après, on va rentrer dans la création de l'univers, qui est un autre sujet, où on va pouvoir, en musique, créer des univers totalement imaginaires et jouer avec dans un espace tridimensionnel.
Et créer des sensations, c'est proprement stupéfiant. Hein. Pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience du binaural, il faut mettre un casque. On va y venir au casque. Hein. Je vous vois hocher de la tête, Marie-Georgescu de Hellerin. On peut vraiment ressentir un son à l'arrière de votre tête, oui. Et un autre, par exemple, qui serait vraiment au niveau de votre tempe, ou un autre qui même serait au niveau de votre mâchoire. Enfin, on sent les degrés. Vous le disiez, hein, l'être humain est doté d'un. On peut discriminer la provenance d'un son de façon extrêmement précise. Et peut-être que c'est sous-exploité pour l'instant, et peut-être aussi qu'on oublie de considérer que nous n'avons pas tous la même physionomie, pas la même taille de tête, et c'est pour ça qu'il faut faire ces petits tests.
Donc voilà, pour répondre à votre question, je conclue, c'est que il y a 7 profils, en fait ce sont 7 profils morphologiques qui à peu près doivent satisfaire à peu près 100% de la population européenne, dans la mesure où toutes les mesures ont été faites sur des individus européens, et que les morphologies, en fonction un individu asiatique n'a pas forcément la même morphologie qu'un européen, et on n'a pas fait les mesures. Nous n'avons pas ces bases-là, donc là je tempère. Et pour rebondir, ça va même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, quand on mélange du binaural avec des captations ou des modes de reproduction traditionnels tels la mono et la stéréo, on sait qu'aujourd'hui, quand on écoute de la mono au casque, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et on entend les sons à l'intérieur de la tête. Et là, notre propos aujourd'hui avec Nouveau Son, c'est que de travailler sur cet aspect-là, puisqu'on va reproduire quasiment, on va pouvoir créer un mode de perception qui n'existe pas au naturel. C'est-à-dire, vous placez des sons dans la tête, à la frontière de la boîte crânienne, à l'extérieur et tourner autour. Donc là, aujourd'hui, on rentre dans un univers, alors on maîtrise pas totalement encore, hein, mais on a commencé à tester et ça marche relativement bien. Donc là, sur le plan créatif, c'est considérable. Et en radio également, d'ailleurs, parce que placer une tête, enfin un personnage ou une voix à l'intérieur de la tête d'un individu, cette voix, on va avoir tendance à s'identifier à elle, alors qu'une voix qui est extérieure est bien un individu extérieur. Donc vous pourriez faire l'influence que ça peut avoir.
Vous pourriez faire le narrateur omniscient dans le cadre d'une fiction.
Représenter l'inconscient, enfin blablabla, il y a plein de choses sur lesquelles on peut creuser, quoi.
Et c'est la raison pour laquelle vous cherchez toujours des musiciens qui souhaitent développer ça avec vous.
Oui, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un maximum de créateurs dans toutes les formes et de voir un peu ce qu'on découvre, quoi.
Alors, vous avez voulu nous faire écouter une pièce composée à partir de son familier, à partir de vers.
Santé.
Un extrait de Crystal Counterpoint, une pièce de Hacke Parmerude. Pour ceux qui ont chaussé un casque pendant l'écoute, là, c'est assez stupéfiant. Hein. Xavier Delaporte n'en revenait pas de ce qu'il entendait. Ah,
mais ça produit un effet physique immédiat, hein, là, de tremblement, de... de larmes qui viennent aux yeux. C'est bizarre, hein. Non, mais c'est vrai.
C'est un peu dangereux, non, comme,
Non, c'est pas dangereux si on a conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on écoute. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être pédagogue et d'expliquer. Ouais. Et notre grande maison qui est Radio France et ses chaînes doivent le faire, explorer, dire tout ce que l'on peut faire.
Et vous avez mesuré les effets, justement, physiques?
Non. Non, maintenant, après, c'est, jusqu'ici, on n'a pas de retour avec nouveau son, avec le nouveau player. On a un nouveau player sur nouveau son, je vais passer les détails. On a à la fin de chaque production un questionnaire qui est proposé aux auditeurs sur lequel ils nous répondent. Et c'est un questionnaire qu'on a mis en place avec Orange Lab, avec qui on travaille sur ces domaines. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche relativement bien. C'est-à-dire que les gens apprécient dans l'ensemble, à 90%, dans 90% des cas, les gens trouvent que la binaurisation, c'est-à-dire la spatialisation des sons, est extrêmement intéressante parce qu'elle immerge et qu'elle immerge dans la production. Donc je pense que sur le plan d'imaginaire, ça génère encore plus, quoi.
Mais la question de Xavier est juste, parce que quand on sait que le siège de l'équilibre, c'est l'oreille interne, si vous troublez tout ça avec des sons qui vous donnent des impressions de vertige, bon, c'est pas recommandé pour la conduite en voiture, par exemple.
Non, mais fallait déconseiller d'écouter avec un casque en voiture. Je déconseille à tous, parce que
beaucoup
de scooters
font ça aussi, c'est une très mauvaise...
C'est même interdit maintenant.
Ouais, c'est interdit, mais on peut s'en féliciter.
Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument écouter au casque. Un petit exemple de science-fiction, on passe au casque.
Bienvenue sur notre planète, monsieur l'astronaute.
Ce que tu vois là, c'est le dernier look du plein accomplissement sensoriel.
Ouais, allez. C'est un test. Andrea, donne-moi 90 décibels en ondes sinusoïdales, tu veux?
Viens, on y va quand tu veux.
C'est quoi ce truc-là?
Ça, fiston, c'est le chapeau.
On fait quoi avec ça?
On se le met sur la tête.
Ça tourne.
Qu'est-ce que tu fais? Enlève ce casque!
Chris!
Chris!
Un extrait de Brainstorm, un film de 83 avec Christopher Walken et Natalie Wood. La musique, c'est Daisy Bell, une chanson de 1892, mais interprétée, c'est la première musique interprétée par un ordinateur, c'était IBM en 1961. Ce petit montage pour parler de casque, mais dans ce qu'ils ont de positif, mais pourquoi pas d'immersif. Aussi avec vous, Marie Georgescu de Hillerin, ingénieur du son, auteur pour le site Les Numériques. Vous faites notamment beaucoup de sites, enfin vous consacrez beaucoup d'articles, non pas forcément comparatifs, mais d'analyse vraiment très technique, très précise sur ce que peut un casque avec des indices, on voit les ondes sonores, enfin vous donnez vraiment toute la gamme de ce que peut faire un casque et les raisons ou pas de l'acheter. Alors on a disposé quelques exemples sur la table, vous êtes venu vous avec un exemple qu'on va garder pour la fin parce que j'ai l'impression que c'est la Rolls des casques, mais ce qu'on a devant nous, on a déjà... Est-ce que le matériel avec lequel on écoute, là c'est vraiment une question ouverte, est-ce que le matériel avec lequel on écoute de la musique aujourd'hui est vraiment de meilleure qualité que dans les années 70? Puisque tout le monde ne jure que par la vieille hi-fi, que tout le monde revient au vinyle, on a l'impression que finalement on écoutait mieux la musique, en tout cas dans de meilleures conditions, dans les années 70.
Alors pour je peux parler principalement des casques. Disons qu'il y a une démocratisation en tout cas de la bonne qualité. Voilà. Il y avait des très très bons casques qui se faisaient dans les années 70, tout comme il y en a maintenant, mais on peut accéder à des casques de meilleure qualité maintenant avec un budget moindre. Donc ça, voilà, c'est pas mal.
Parmi les casques qu'il y a sur la table, il y en a un tout petit, c'est l'intra-auriculaire classique qu'on vous donne quand
D'Apple.
Vous achetez, voilà, quand vous achetez un téléphone. Ça, par exemple, on peut écouter du binaural avec ça, ça fonctionne
Le binaural va fonctionner, mais bon, pas vraiment pas aussi bien que déjà avec un casque supra-auriculaire ou circum, donc c'est-à-dire les casques qui se mettent par-dessus et qui se mettent pas à l'intérieur des oreilles, des pavillons. C'est pas un mauvais casque parce qu'il faut toujours juger le casque en fonction de ce qu'il promet et de ce à quoi il est dédié. Or, le casque d'Apple, voilà, on va pas écouter des trucs incroyables avec ça et des mixages avec 60 pistes, Mais ça reste un bon casque pour ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, c'est un kit main libre qui a une bosse dans les médiums pour avoir quand même des voix flatteuses. Donc, quand on appelle quelqu'un, on comprend bien. Voilà. Et on peut écouter des émissions de radio, des podcasts, ce qui est quand même
très important.
N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est fait pour ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas, des basses incroyables. Ça ture quand même un petit peu. Voilà. C'est pas... Mais c'est bon pour ce que ça promet, en fait. Voilà.
En fait, je vous pose une question que je pose régulièrement à Hervé Desjardins, parce que cette question de la qualité aujourd'hui de ce qui est mis à notre disposition, elle devient vraiment critique quand on pense qu'on écoute des MP3, donc des choses qui ont été compressées, souvent sur le haut-parleur du téléphone. Quand on se dit qu'autrefois, on avait de très belles enceintes, enfin que nos parents ou nos grands-parents avaient de belles enceintes et un beau système hi-fi, on se demande s'il n'y a pas une dégradation. Et vous, Hervé, vous me disiez en préparant l'émission, mais non, les pré-amplis des téléphones sont très bons, par exemple.
Alors, pas tous, mais en général, aujourd'hui, sur les grandes marques dont on taira les noms, qui embaissent si
vous
les
en
poches,
donnez deux ou trois, c'est bon.
Qui embaissent les poches, c'est quand même de la bonne qualité. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, depuis quelques années, on assiste à une démocratisation de la qualité audio et on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, la démocratisation, c'est l'exemple que je vous citais, Mathieu, c'est que effectivement, on parle aussi des moyens de retransmission et moi, on me parle de la FM comme d'un moyen qui était excellent. Oui, pour moi, la modulation de fréquence était un très bon moyen dans les années 60-70 de diffuser le son. Avant la démocratisation de la FM, avant qu'il y ait plein de radios sur la bande FM, et où il a fallu faire rentrer tout le monde au chausse-pied sur la bande FM, et il a fallu drastiquement retresser l'audio, et voilà, et on a perdu en qualité. Donc, par contre, on pouvait se féliciter de la démocratisation. Là, à l'inverse, depuis les années 2000 et surtout là, depuis 2010, on a vraiment une qualité. Nouveau son, on ne pouvait pas le faire avant 2008. Quoi. Bon, on l'a fait en 2013, mais la technologie et la capacité à le recevoir sur un smartphone, c'est-à-dire la capacité de... Parce que le codage qu'on utilise sur Nouveau son pour transmettre avec très peu de débit le signal, puis après c'est décompressé, enfin décodé sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, c'est que depuis 2011-2012 que les smartphones et les tablettes sont capables de calculer ça sans vider la batterie en moins de 10 minutes. Bref, depuis les années 2010, là, ça y est, le son, on peut... Et Nouveau son, pour moi, c'est un bel exemple. Et je suis vraiment très, très fier que Radio France en ait fait cela. Dans la mesure où on montre un chemin qui est extrêmement intéressant, c'est la démocratisation de la qualité. Et ça va avoir du sens, notamment avec les mondes immersifs qui arrivent à grands pas. Et on va produire dans ces univers. Et le son a une importance capitale dans l'immersion. Donc, je pense que ça y est, on est à la croisée des chemins, quoi. Comme aujourd'hui, produire, Molécule peut en attester, il en parlait tout à l'heure, produire dans un petit studio aujourd'hui, ça coûte pas très cher et quelqu'un qui travaille avec du bon sens, avec ses outils, va sortir d'un très bon niveau de qualité. Alors qu'avant, il fallait un studio qui coûtait très très cher. Enfin, voilà.
Marie-Georges Escou de Lillerin, avec quoi est-ce que vous testez vos casques et votre matériel ? C'est pas seulement avec du signal, c'est aussi en écoutant, j'imagine, de la musique ou alors peut-être des mondes immersifs, comme Hervé Desjardins en parle.
Ouais.
Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme référence ?
Bon, alors déjà, moi, j'insiste pour qu'on écoute absolument avant de faire les mesures, parce que même étant un G-son en studio, j'ai remarqué qu'il y a des chanteurs, quand ils voient les courbes d'EQ, ils ont l'impression d'entendre les choses et ça peut être très trompeur de voir le son, d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que j'insiste pour qu'on ait que des ingé-sons. Il y a Benoît Campion qui est ingénieur du son chez Numérique, Guillaume Le Toupin qui est futur ingénieur acousticien. Donc on écoute toujours le casque avant de voir les mesures. On n'impose pas du tout, on n'a pas de son type avec lesquels écouter. C'est en fonction de chaque testeur, les morceaux, les albums qu'on connaît par cœur et... Voilà, donc d'abord on écoute avec toutes sortes de formats. Donc bon, le MP3 c'est un terme générique, enfin pour dire les musiques compressées. On écoute aussi avec de la haute définition, des CD, c'est très important. Voilà, donc ça c'est la partie écoute qu'on fait toujours avant. Et puis après on passe à la partie mesure purement acoustique avec justement une tête qui est utilisée aussi pour les enregistrements binauraux, avec le pavillon, etc., tout ce qu'il faut. Et puis là, on a un analyseur qui fait toutes les mesures acoustiques.
Mais quelle musique est-ce que vous mettez quand vous faites ces tests?
Parce à
que
moi.
Là, c'est que, bah voilà, c'est que, quand on achète une chaîne, il y en a qui vous disent il faut absolument écouter, j'en sais rien, le Pink Floyd, par exemple. Ça vous permettra de savoir si votre matériel est bon.
Ouais. On a fait une playlist sur Spotify, d'ailleurs, justement, playlist Les Numériques de tests, je crois, la playlist Test Labo. Voilà, donc vous pouvez la trouver. Où on a écrit un article, en fait, à trois mains, où on expliquait ce que chacun écoutait. Moi, je suis une très grande fan de la musique industrielle qui je pense, donne beaucoup d'indications sur le son. Et voilà, donc j'écoute Downward Spiral de Nine Inch Nails, que je connais par cœur. Il y a le symphonique de Metallica aussi. J'écoute beaucoup de musique de film, de musique classique. J'adore la flûte enchantée de Mozart, donc, voilà, que je connais par cœur. Donc,
Ah oui, il y en a beaucoup qui disent que c'est les enregistrements de piano, peut-être, qui ont le plus de dynamique et qui permettent, en fait, d'entendre quasiment la plus grande gamme de sons possibles.
Oui, après, c'est vrai que ce qui est orchestral est aussi très intéressant par la compilation de toutes les pistes. Enfin, voilà, de la musique compressée dynamiquement, pas dans le sens de compression de données. De la musique aussi très peu compressée pour avoir toutes les nuances. Des styles un peu plus vocaux pour voir comment les membranes se comportent au niveau des médiums, et puis après, on teste à peu près tout ce qui donne les plages fréquentielles.
On écoute un extrait de votre groupe préféré, Nine Inch Nails. La voix de Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails, Closer, ça c'est sorti en 94, c'est un bon test pour écouter les casques. Avec quel casque? Donc il y a eu plusieurs casques sur notre table, il y a le Parrot qui a été... Le fameux Parrot.
Ouais.
Il est fameux le Parrot, hein?
Oui, il est fameux le Parrot, oui.
Ouais. Qui propose une expérience assez inédite. Visiblement, l'avenir des casques passera par là. Donc déjà, plus de fil du tout. Hein. Il communique tout seul avec la machine. Et puis, lui, il produit une impression assez étrange. Il vous coupe un peu du reste du monde.
Oui, la réduction de bruit active.
Alors, comment ça fonctionne, ça? Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, ça utilise... disons que ça repose sur le principe de la phase. Donc, y a des micros, des capteurs qui sont placés, qui captent les sons extérieurs et qui vont injecter à l'intérieur du casque le même son en opposition de phase. Et donc, ça va, d'une certaine manière, annuler le son. Voilà. J'essaie de faire...
Donc ça annule tout ce qui est autour de vous. Les enfants qui jouent, tout ça.
Ça annule pas tout, ça marche très bien sur les bas médiums et les médiums. Après, sur les aigus et les extrêmes basses, ça marche un petit peu moins bien, mais ça dépend de la technologie. C'est Bose qui était pionnier là-dedans. Et les premiers casques pour ça, c'était pour des aviateurs, en fait. Voilà.
Utilisation militaire, qui sont, ça vient souvent de là.
Ouais.
Vous avez apporté un autre disque, pas du tout, un casque, qui est lui conçu par la firme AKG. Comme ça, on cite plusieurs marques, hein, comme ça tout le monde est content.
C'est fait.
Celui-ci, alors il est doré, il est très très beau. Vous pouvez nous le décrire et nous dire.
On va dire.
Oui, mais il le vaut bien, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous lui donniez son prix public.
Oui, 1500 euros.
Voilà, quand
c'est
même.
Fait. Voilà, ouais. Mais c'est ce qu'on appelle un casque flagship, en fait. C'est pas vraiment fait pour être acheté par les gens. C'est une démonstration. C'est une démonstration de virtuosité. Dans le test, j'avais fait la comparaison avec les robes de défilé. Voilà,
c'est de la haute couture.
Voilà, c'est de la haute couture. C'est la manière d'AKG de montrer ce que le fabricant peut faire de mieux. Donc, il y a de la réduction de bruit active, il y a des EQ intégrés, il y a des différentes réverbérations.
Il est isolant, bien sûr.
Ouais, et surtout, c'est le seul casque au monde à correction d'oreille. enfin, moi j'ai appelé ça comme ça, c'est-à-dire qu'il envoie un, ce qu'on appelle un sweep fréquentiel, et il analyse l'impact qu'a justement le pavillon et même la dégradation des matériaux, la température sur le son, et en fonction donc de l'impact qu'a tout ça sur le son, il va corriger le son pour que tout le monde ait le même rendu. Et c'est Quincy Jones, ça a été développé en collaboration avec Quincy Jones. La légende dit que Quincy est allé voir le patron d'AKG et il lui a demandé un casque avec lequel tout le monde pouvait entendre exactement la même chose.
Voilà. Je comprends pas bien le principe de la réaction de bruit actif, parce que on sait que une grande partie de ces casques sont utilisés dans la rue.
Ouais.
Donc c'est un endroit où précisément on a aussi besoin d'entendre ce qui se passe à l'extérieur.
Justement.
Et voilà. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a pas des moyens justement de faire pas de la réduction de bruit actif, mais une sorte d'harmonie, si je puis dire, entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, et que ce soit ça qui soit évalué plutôt que la réduction?
Alors justement, le Parrot a été le premier à proposer une application où il y avait déjà différents degrés de réduction de bruit actif, et à l'inverse, il y avait même un street mode où les capteurs et les micros extérieurs, au lieu d'être utilisés pour réduire le bruit, était justement ouvert pour qu'on puisse entendre encore plus ce qui se passe.
Si jamais une voiture arrive à votre gauche...
Voilà. Parce que c'est une expérience très belle, l'expérience du mélange des...
Bah, je pense que c'est pour choisir son expérience, en fait. Okay. Si on est dans le métro et qu'on n'a vraiment pas envie, et que c'est... Enfin, dans le métro, il y a quand même... On atteint plus de 90 dB, donc ça peut être très fatigant. Donc là, on peut se couper. Mais si on est dans un petit quartier, on se balade à Montmartre et qu'on veut entendre tous les bruits, bah là, à l'inverse, on peut... ou même enlever le casque, en fait. Mais activer les micros externes.
La transition est toute trouvée, on passe du côté de Yabalade. Un extrait de votre album Bachar Mar, qualifié Yalafnam Nada. Comment je le traduis?
Celui-là, c'était Wolfpack.
N'importe quoi.
Donc la meute des loups.
Donc il n'y a rien à traduire. Bah, si, en français. Alors on l'entend dans ce titre, c'est presque un concentré d'aventures musicales de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, puisqu'on passe du piano préparé, cordes, percussions, retravaillées par les machines. Comment est-ce que vous composez aujourd'hui? On l'a déjà un peu évoqué, les musiciens travaillent en studio, mais aussi chez eux. Certains voyagent avec leur ordinateur. On peut même composer avec un téléphone portable aujourd'hui, ou en tout cas commencer à faire des maquettes, comme autrefois on prenait des notes. On peut toujours continuer à le faire, mais on peut aussi commencer à composer avec son téléphone.
Je n'ai pas de recette particulière quand il s'agit de composition. En l'occurrence, ce titre est parti beaucoup de l'impro en studio.
Il est parti d'un piano que vous malmenez.
Il est parti d'un verre de vin au départ, ce morceau, et d'un piano, effectivement. J'ai fait beaucoup de percussions dans le piano, improvisées. Après, la mélodie vient par la suite. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que ce rythme appelle? Quel son appelle ce rythme? C'est difficile d'intellectualiser en fait ce processus de composition qui, justement, pour moi, le studio, c'est un espace de liberté totale, et il y a forcément quelque chose qui va naître de ce moment. Le studio, c'est un endroit coupé du monde, a priori. C'est quelque chose qui... On fait la démarche d'aller en studio de pendant plusieurs jours. C'est une aventure humaine, comme le bateau. Donc c'est un état particulier, qui est extraordinaire. Et voilà, et je laisse, j'aime laisser les choses arriver par elles-mêmes, en fait. J'aime être à l'écoute, tout d'abord, du silence et que les choses émergent par elles-mêmes. S'il y a un piano, s'il y a un clavecin, s'il y a des percussions, s'il y a par la suite des traitements de son, de réverb, de je sais pas quoi, tout ça, ce sont encore une fois des outils au service de la musique.
C'est intéressant cette métaphore du bateau, puisque ce disque, il y a balade, on pourrait traduire par mon pays, à peu près. Enfin, il s'agit beaucoup de la nostalgie, du rapport d'amour et de rejet que vous pouvez avoir avec le Liban, où vous êtes né, où vous avez grandi jusqu'à vos 6 ans, puis vous êtes venu vivre en France. Ce disque ne parle que de ça, et finalement du bateau qui vous tient entre les deux, finalement, hein, Bachar Marc Khalifi.
Je crois que je suis comme beaucoup resté coincé entre guillemets sur le bateau, c'est-à-dire que ce chemin, ce parcours de vie s'apparente à un voyage. Je pense pas être le seul dans mon cas, et ce n'est pas forcément en rapport direct avec l'exil. Je pense que ça concerne beaucoup de gens simplement qui cherchent des choses, qui se souviennent de choses et qui espèrent des choses.
Ça, je vous le confirme, l'isolement, on peut le ressentir partout. Je vous laisse retrouver le piano. C'est Kyrie que vous allez interpréter ?
Oui, Kyrie Eleison.
Et dont je donne un aperçu des paroles. Ô Seigneur, cela fait 100 années de jeûne et de prière. Épargne-moi, mon chant est pour toi, mon silence est pour toi. J'ai cru, j'ai lutté. Épargne-moi et accorde-moi cette dernière requête. Épargne-nous et laisse-nous tranquilles. Bachar, Marc, Alifé, en direct sur France Culture. Je précise que vous serez au concert le 30 janvier aux Antipodes, c'est à Rennes, le 8 février à la Maroquinerie à Paris. C'est déjà complet, mais il y aura le 10 mai à la Gaîté Lyrique. Et puis vous serez en février du côté de Metz, Clermont-Ferrand, puis Tours, au mois de mars, à Toulouse, Pau, La Rochelle, Bourges. Le printemps de Bourges, ça ce sera pour avril. Une question sur votre nom, puisque vous y avez ajouté quelque chose, Bachar. Votre père, Marcel Khalife, est un musicien déjà connu, reconnu au Liban, en Palestine. Pourquoi avoir ajouté Mar, le saint? C'est une provocation?
Vous avez tout dit. mon nom officiel au Liban est Bachar Marcel Khalife, car tous les enfants prennent en deuxième prénom le prénom du père. Que j'ai coupé en deux, enfin le prénom.
J'espère pour lui.
Pas le père. Et Mar, effectivement, au Liban, c'est les saints. Il y a beaucoup de saints, des vrais, des canonisés religieusement. Et voilà, c'est une petite pointe d'humour envers la religion. On manque un peu d'humour, je pense, par rapport à ce sujet.
Je suis sûr que votre père a dû apprécier.
Oui, il a de l'humour aussi.
Molécule, vous êtes venu avec un disque vinyle qui en est posé ici sur la platine. Bon, on écoute un extrait, vous nous dites le pourquoi de ce choix.
Bah, c'est vraiment les sentiments, c'est un album de chevet. On m'a souvent demandé la musique que j'avais emmenée sur ce bateau, j'en avais emmené aucune. Pour,
les vinyles sur un bateau, c'est pas recommandé en plus.
Non, mais même pour avoir aucune référence, on va dire, et j'avais juste cet album-là dans mon téléphone portable, et en vinyle, c'est encore mieux. C'était mon petit refuge dans la tempête.
Donc c'est Pink Floyd.
Pink Floyd, album Medal, A Pillow of Winds.
A cloud of Ida down draws around me, softening the sound. Sleepy time and I lie with my lamp by my side, and she's breathing low.
Merci pour ce rappel de Pink Floyd, Molécule. Bientôt 16h. Merci à tous d'être passés par Continent Musique. Marie Georgescu de Hillerin, on peut vous lire en ligne sur les numériques. Bachar Marc Khalife, Yabalade, c'est sous le label Infiné. Molécule, prochain album studio et live, ça paraîtra bientôt chez Because Music. Et puis vous serez en concert le 6 février à Laval. Hervé Desjardins, on peut suivre l'actualité de nouveaux sons sur le site de Radio France, nouveauxsons.radiofrance.fr. La suite, c'est à vous, Meryl.
C'était Continent Musique, un magazine de Mathieu Conquet, équipe de réalisation Olivier Guérin avec Nicolas Delmas et Anthony Thomasson, préparation et archives avec Lina Meryl Moneghetti. Rendez-vous sur le site de France Culture pour retrouver toutes les informations et podcaster Continent Musique.
Et le mot de la fin sera celui de Xavier Delaporte, hein, puisque votre dictionnaire intime du numérique rythme toute la journée de France Culture. Pour l'heure, c'est Shazam ou le monde reconnu.
Au début, c'était par facilité. Un morceau de musique dans une fête, la mélodie est chouette, tout le monde danse, il sortait son téléphone, ouvrait Shazam et paf, l'application lui donnait le titre du morceau. Après, il suffisait de télécharger, l'intégrer dans une playlist et hop, c'était joué. Il s'est donc mis à Shazamer partout, dans les taxis, au resto. Ce qui le fascinait, c'est comment ça marchait. Ce téléphone reconnaissait à peu près n'importe quel morceau, même au milieu d'une bruit d'une soirée, même accéléré par un DJ dans une boîte. Alors il s'est renseigné. Un truc d'empreinte digitale de la musique créé à partir de moments de tension, c'est ce que dit Shazam, qui permet d'identifier un même morceau, même dans les conditions d'écoute et de versions différentes, des empreintes stockées dans une immense base de données, des millions de titres. Il suffit ensuite de comparer les empreintes. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'est aperçu que plein de boîtes s'étaient inspirées de Shazam pour identifier d'autres choses que de la musique. Reconnaître les plantes, reconnaître les oiseaux, reconnaître les vêtements de mode, reconnaître les bières. Il a téléchargé toutes les applis, s'est mis à tout shazamer. Tout ce qu'il voit et ne reconnaît pas. Pof, il shazame. Il lui suffit d'avoir un téléphone à portée de main pour avoir l'impression que le monde entier est identifiable et nommable. Ça le rassure à mort. Parfois, il se demande ce que ce serait un monde où vraiment tout serait reconnu. Il se demande ce que ce serait un Shazam des humains, par exemple, où tout être humain pourrait être nommé, identifié. Il se dit que ce serait bien utile en soirée pour savoir à qui on parle. Il se demande aussi si ce serait pas ce à quoi rêve la police.